Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Régis Debray.
Je ne schtroumpf rien du tout, je suis le schtroumpf grognon et j'ai un trop-plein de colère à évacuer.
Waouh, qu'est-ce que c'est bon.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bibi, ainsi se surnomme Régis Debray, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi Schtroumpf Grognon.
Oui, c'est un méchant sobriquet que m'a collé un méchant journaliste, à tous les sens du mot, du nom de Laurent Geoffrin. Et comme j'ai le sens de l'autoflagellation, je l'ai repris à mon compte. Au fond, pour moi, c'est un éloge, ça veut dire un trouble fait, un gars qui est pas dans les clous et qui nous emmerde. Et moi, j'aime bien les Schtroumpf Grognon, j'en connais un certain nombre.
Oui, parce que pour l'autoflagellation, à travers les 1100 pages de ce volume de Quarto, j'ai noté ceci. J'ai vécu sous Chilpéric. Je suis le burgrave préparé aux moroses. Je n'ai été qu'un joker. Et à votre fille, vous dites, dans le genre raté, c'est moi le meilleur.
Oui, c'est pas faux. Mais écoutez, d'abord, il y a de l'antiphrase, hein, une sorte de coquetterie peut-être. Fishing for compliment, vous allez dire. Mais je préfère ça à ceux qui bombent le torse, montent leurs muscles. Je préfère faire le tout petit pour que peut-être on devine que je suis peut-être un tout petit peu plus grand que je... celui que je présente.
Et en tout cas, beaucoup plus joyeux et guilleré
ah oui, partisan
ce
résolu,
surnom de Schtroumpf Grognon.
Partisan résolu du comique, ne pas se prendre au sérieux.
Alors, dans vos œuvres littéraires, vous présentez un livret d'opéra, c'était récemment à Lyon, vous présentez, si j'ai bien compté, hein, il y a plus de 1100 pages, au moins deux pièces de théâtre, et celle-ci que nous avons retenue et qui est consacrée à l'empereur qui régna vers 361 de notre ère et qu'on surnomme l'apostat Julien, l'apostat que vous dites le fidèle.
Nous sommes à Rome en 2037, sous les voûtes du Panthéon, dans le cadre d'une grande exposition sponsorisée par les compagnies pétrolières Total et ExxonMobil.
À l'occasion d'un attentat dans le Panthéon à Rome, une des statues qui était exposé là, qui est une statue de Julien l'Apostat, reprend vie et s'avance vers nous et nous dit...
Bien bonjour, chers amis, content de vous voir, je m'appelle Flavius Claudius Julianus, empereur romain, trucidé avant l'heure, le dernier des empereurs païens. Mon surnom, Julien l'Apostat, l'antéchrist. La bête surgit de l'abîme au rendez-vous de l'apocalypse. Ah. Ouais, mais je parie que ça ne vous dit rien du tout, hein. Bon, bah alors je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. César, vous vous souvenez? César, l'énergie. Ensuite, Auguste. Auguste, la clémence. Néron, la cruauté. Caligula, l'absurde. Trajan, une colonne. Adrien, Yourcenar. Il était très chic, Adrien. Très soutenu, très culturel, très profond. Alors, chacun dans son créneau. Et moi, ma special touch, mon petit plus, le retournement de veste. L'homme qui brûle ce qu'il a adoré. Le chrétien qui redevient païen et en pleine connaissance de cause.
Et le païen, qui est fidèle en fait à l'ancien monde, et en matière d'engagement, la fidélité, Régis Debray, c'est important, et il faut s'engager au péril de sa vie, il va aller jusqu'à la mort.
Oui, d'abord, Julien, c'est vraiment l'apothéose de la fidélité. Hein. C'est un homme qui ne veut pas renoncer à sa religion, qui est la religion romaine, et qui voit monter dans le christianisme une secte fondamentaliste, terroriste à l'époque, et qui veut absolument sauvegarder sa liberté de penser. Et puis, formidable injustice, inversion de l'histoire par la légende, on en fait un apostat. Et il est allé se battre, comme font tous les Occidentaux à l'époque, et aujourd'hui, il est allé se battre contre les Perses, c'est-à-dire contre les Iraniens. Car rappelez-vous que l'Empire Perse est le seul qui a tenu tête à l'Empire romain, comme à l'Empire américain aujourd'hui.
Votre réflexion, elle s'organise autour de cette idée centrale. Les cycles d'espérance dans l'histoire ont été longs, l'histoire de Rome, c'est très long, le cycle d'espérance chrétien, qui a vaincu Julien l'apostat, a été très long. Bah, vous-même, vous êtes de tradition chrétienne, enfin catholique plus que protestante, et vous avez beaucoup de respect pour le chrétien que vous définissez comme quelqu'un qui conçoit sa vie en solidarité avec les autres et qui ne fuit pas les épreuves.
Donc le chrétien est l'homme qui ne se préfère pas, si vous voulez. C'est-à-dire qui préfère sa cause à son nombril. Et donc c'est un homme qui s'engage, qui est au service des autres et qui a une autre finalité dans la vie que de faire fortune. Donc c'est vrai que le chrétien, c'est l'exemple du militant. L'exemple un peu, je dirais peut-être suranné, le militant lui-même est une figure, je dirais, un chef-d'œuvre en péril, si vous voulez. Et donc c'est vrai que je suis de tempérament chrétien et de culture chrétienne. Je précise que j'aime bien les protestants, qui sont formidables dans la résistance. Ils sont moins bons à l'initiative, à l'offensive, mais ils savent sauver les meubles et l'honneur, regardez, pendant la guerre, par exemple, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai, moi, je vois qu'il y a une filiation entre le militant chrétien et le militant socialiste. Et d'ailleurs, les militants révolutionnaires que j'ai connus étaient généralement, en Amérique latine en particulier, alors, de filiation chrétienne.
On en vient au cycle de l'espérance révolutionnaire, dont vous notez que si celui du christianisme a duré peut-être 2000 ans, il est beaucoup plus court. Vous allez en Amérique latine, puisque vous parlez de l'Amérique latine, non pas vers l'aventure, vous n'allez pas rejoindre une utopie, c'est pas du tout le genre de la maison.
Non, il y a évidemment, je dirais, l'évaluation des rapports de force, mais qui amène à dire, ben, je mets du côté du plus faible, pour qu'il soit demain le plus fort. Non, ce n'était pas une utopie, c'était un projet, le projet révolutionnaire. C'était d'abord surtout, si vous voulez, un projet de sauvegarde des vies humaines, hein, parce qu'il faut se rappeler que l'Amérique latine, à l'époque, c'était le règne des militaires et le règne de la CIA, n'est-ce pas ? Donc il y avait une véritable oppression ajoutée à une misère paysanne, ouvrière, bref, c'est vrai que c'était difficile de regarder tout cela de loin. Et puis on avait peut-être l'idée que il faut participer à des mouvements qui peuvent changer l'histoire du monde. On se dit qu'on veut en être. On aurait craint ensuite, de, si on n'en avait pas été, d'être un peu comme ces Français qui ont passé sous l'occupation leur vie à faire la queue devant les épiceries, voilà. Et on se dit, mais est-ce que j'aurais été au Vercors ? Est-ce que j'aurais été avec Daniel Cordier
à qui vous avez consacré un bon film ?
On se dit, on ne veut pas entendre le Pantois, brave Crillon. Vous savez ce qu'avait lancé Henri IV à un de ses vénéraux ou maréchaux qui n'avait pas été à la bataille. Voilà. Et on se disait, non, il faut en être.
Votre surnom, c'est Danton.
Oui.
C'est parce que quand Danton meurt, il dit au bourreau, ou il aurait dit au bourreau, montre ma tête au peuple, elle en vaut la peine.
Non, parce que Danton, c'est pour moi le meilleur de la Révolution. C'est un mélange, je dirais, de sensualité et d'utopie. C'est une force qui va. Alors, bien sûr, les massacres de septembre, mais c'est pas l'historien que vous êtes que je vais disculper Danton, mais j'aime mieux Danton que Robespierre, pour tout vous dire. Je le trouve plus charnu, plus authentique, plus vital. Voilà. Un moins pisse-froid, si vous voulez.
Et quand votre fille, il y a un très beau texte dans le Quarto, Comète, ma comète, vous demande pourquoi tu étais en prison, tu as failli être exécuté. Alors justement, là, vous lui dites, un simulacre d'exécution, tu sais, Laurent, c'est pas exactement comme on l'imagine. Vous avez été en prison à Camiris, 67, simulacre d'exécution.
Oui, c'est un peu brumeux, parce qu'on vous réveille tôt le matin, un coup de pied dans le cul, et vous avez plutôt envie de faire pipi dans un coin, mais on vous en laisse pas le temps, donc vous êtes un peu, comme ça, un peu stupéfait. Pas terrorisé, à l'époque j'étais fataliste, je trouvais tout à fait normal qu'il me fusille, pour tout vous dire.
comme Daniel Cordier trouvait tout à fait normal, quand il était le secrétaire de Jean Moulin, de devoir peut-être mourir dans des circonstances peu agréables.
Ça fait partie des risques du métier.
Vous êtes libéré en 71, on va vous retrouver dans un film au Chili, où vous rejoignez le président Allende qui vient d'être élu, un film tourné par le collectif de l'incomparable Chris Marker. Chris Marker, que vous montrez dans une photographie, il y a des photos dans Quarto avec un chat, parce que le chat...
C'était son totem et le chat n'aime pas le pouvoir. Et Chris était un anarchiste chrétien.
Janvier 1971. Je sortais de prison en Bolivie. Je suis arrivé au Chili, j'ai rencontré Salvador Allende, président élu de la République chilienne depuis 4 mois. J'avais approché la vie et la mort du Che Guevara, incarnation de la lutte armée en Amérique latine, et apparemment Allende incarnait le pôle opposé, la victoire par la lutte électorale. Très vite, Allende me montra l'exemplaire de la guerre de guérilla que le Che lui avait offert avec cette dédicace à Salvador Allende qui par d'autres moyens cherche à obtenir la même chose. Affectueusement, Che.
A Salvador Allende, qui par d'autres moyens trata de obtenir le mismo. Affectueusement, Che.
C'était le premier anniversaire du gouvernement du président Allende. Ce gouvernement est composé de 6 partis politiques. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical et 3 formations, dont une formation de gauche chrétienne, mais qui se sont tous engagés sur un programme commun, le programme d'unité populaire. C'est vrai que l'expérience chilienne, la synthèse entre la construction socialiste et la liberté, le sens de la loi, la révolution pour la loi, sur le plan même de la tentative politique, représente quelque chose d'original, qui peut servir d'exemple pour le socialisme français.
Allende vous a confié un message pour François Mitterrand, qu'on vient d'entendre, qui est alors le leader de l'opposition non communiste en France. Et à la juxtaposition de ces deux voix, on examine la bipolarisation qui existe dans le mouvement socialiste, la polarisation révolutionnaire, la polarisation parlementaire. Allende, il tenait des deux.
Il était au croisement des deux, il était fondamentalement un réformiste, mais avec un surmoi, si j'ose dire, un idéal du moi révolutionnaire. C'est pourquoi il avait l'image du Che au-dessus de lui. Et quand Mitterrand vient au Chili, où il fait, pour ainsi dire, un banc d'essai pour ce qu'il va faire en France, il rencontre un autre monde. Il y a une intersection entre un monde héroïque et un monde politique, si vous voulez. Et Allende, qui était extérieurement un bon sénateur Ratzok du Sud-Ouest, n'est-ce pas, avec le même goût de la bonne chair, le même goût des bons mots, et un gilet croisé, n'est-ce pas, il est mort en héros, en se floquant une balle dans la tête pour ne pas être exhibé par les putschistes. Évidemment, Mitterrand, c'est une autre tradition qui était plus politique, mais il a su rencontrer cette tradition-là et en quelque sorte la véhiculer. Mitterrand, je parle, il a accroché cet espoir qui était celui du socialisme dans la liberté. Alors c'est peut-être une gageure.
On peut parler du Mitterrand que vous avez connu en 71 parce que grâce à lui, avec ce message d'Allende dont vous êtes porteur, Régis Debray, vous découvrez la France, vous vous retrouvez en tournée avec lui. Alors, la France, vous y songiez de plus en plus. Vous songiez au dedans quand vous étiez au dehors. Je veux dire que vous songiez à la France quand vous étiez dans la prison de Camiri. Et là, vous découvrez les frontons des mairies, les nappes à carreaux rouges, l'éloquence parlementaire.
C'est vrai qu'il faut sortir de chez soi, de son pays, pour devenir patriote, si vous voulez. Hein. Ce que les latinos ont fait, d'ailleurs, Simon Bolivar est devenu un patriote latino à Paris, et San Martino aussi. Eh bien, en sens inverse, c'est vrai que lorsqu'on est loin de chez soi, le dedans vous rattrape dehors, comme disait Victor Segalen, lui en Chine, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai découvert la France charnelle, si vous voulez, sa France que je ne connaissais pas. Hein. Moi, j'étais un bon bourgeois parisien qui était parti une dizaine d'années en Amérique latine, et tout d'un coup, je trouve, la nappe à carreaux, le canon de rouge, la casquette. Car à l'époque, la gauche était en contact avec le peuple. Non, j'ose dire cela, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, elle est en contact avec la banque. Mais j'ai connu le moment où on serrait la main, où je voyais François Mitterrand, qui n'était pas vraiment un populiste. Eh ben, je le voyais au coude à coude avec l'épicier, l'instituteur ou le postier. Avouez que c'était tout de même formidable, non ?
C'est le moment où vous réentendez la Marseillaise en français après l'avoir entendue, reprise en espagnol par les mineurs d'étain de Bolivie qui défilaient, fusil à l'épaule.
Français en guerrier magnanime, portez ou retenez vos coups. Épargnez cette triste victime, à regret s'armant contre nous. À regret s'armant contre nous. Mais le despote sanguinaire, mais les complices de Bouillet, tous ces tigres qui sont piqués, déchirent le sein de leur mère. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, cassons l'empire, abrave nos sillons.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
On a choisi, Régis Debray, un couplet très peu connu, et c'est l'interprétation de la chorale populaire de Paris avec Gérard Friedman. Vous étiez plutôt petit chanteur à la Croix de Bois dans votre jeunesse. L'histoire, dites-vous, c'est quand les larmes vous viennent aux yeux. Ce qui peut se faire quand on entend dans certaines circonstances la Marseillaise.
Oui, c'est vrai. D'abord, on peut retrouver la Marseillaise sans oublier l'international. Hein. Je crois que c'est ce que Jaurès a fait en son temps. Et c'est vrai, lorsqu'on entend, par exemple, le chant des partisans au Mont-Valérien, le 18 juin, on a les larmes aux yeux. Oui, c'est comme ça.
Vous servez François Mitterrand de 81 à 90, à 88. Enfin, vous racontez, parce que vous êtes toujours un pas de côté, que vous êtes dans une pièce d'angle qui donne sur les communs, que vous êtes surveillé de très près en tant que conseiller pour les affaires latino-américaines, puis en tant que président du Conseil du Pacifique Sud, par une documentaliste qui en sait infiniment plus long que vous, Régis Debray.
Elle en sait infiniment plus long que tout le monde, parce qu'elle rassemble chaque soir toutes les notes échangé entre les différents services, tous les rapports de la DST, de la DGSE, et qu'elle sait beaucoup plus que même François Mitterrand. Et c'était une petite dame qui était là depuis une vingtaine d'années, qui était rentrée sous Vincent Auriol, et qui était dans son petit cagibi, où elle, c'était avant le numérique. Hein, donc les dossiers étaient empilés dans une petite armoire de fer, comme dans un bureau de poste, et là effectivement j'avais accès à tout ce qui se passait dans l'appareil d'État, ce qui était très imprudent, mais enfin ça faisait partie de cet artisanat franco-républicain que j'aime bien. Voilà.
C'est sous François Mitterrand que De Gaulle devient grand.
C'est sous François Mitterrand qu'on découvre sa grandeur, c'est vrai. Vous savez, on a dit, mais Debray est devenu gaulliste. Non, moi, j'ai toujours été gaulliste. Je me rappelle, je suis devenu gaulliste explicitement en 1968. C'était une époque, c'était assez un contre-pied, si vous voulez. Mais,
et vous étiez à Camiri.
Mais j'étais à Camiri parce que j'ai compris. D'abord, moi, tous les latinos que je connaissais, à commencer par Fidel et Le Che, étaient gaullistes. Hein. Bon, donc moi, j'étais comme tout le monde, quoi. Et je trouve que ce bonhomme qui tenait tête à l'Empire américain et qui trouvait que la France avait une voix singulière à faire valoir, moi, je trouvais ça très bien. Et alors, c'est vrai qu'après, quand la France s'est banalisée, qu'elle est devenue, au fond, une sorte de dominion américain à travers l'Europe, par exemple, on se dit, ouais, De Gaulle, c'était pas mal. Alors, c'est vrai que c'est toujours en retard. On est toujours en retard par rapport à l'histoire. Au fond, être contemporain de son présent, c'est très difficile.
Puis ce que vous aimez chez De Gaulle, c'est qu'il était un peu zinzin, parce que vous employez le mot. Tandis que François Mitterrand, on va le trouver à la fin de son deuxième septennat, interprété par Michel Bouquet dans le film de Guédiguian, Le promeneur du Champ de Mars. C'est un vieux sage. Ainsi se présente-t-il à un jeune Godelureau qui est de son cabinet au moment où il fait ses cartons.
Vous savez, on me noircit Mais durant ces 14 ans, le pays n'a pas connu de guerre, de crise majeure, de drames sociaux. C'est rare dans l'histoire de France, une aussi longue période de paix. Les affaires, la corruption, elles resteront moins liées à ma période qu'on ne le croit. La droite a fait bien pire. En attendant, ils croient se refaire une vertu en demandant à leur ministre de s'arrêter au feu rouge. La République citoyenne, ils n'ont que ce mot à la bouche. Avec moi, avec mon départ, on est enfin sorti de la monarchie. Il faut tourner la page. Mais je ne suis pas une page qu'on arrache facilement. Vous êtes d'accord ?
La paix sociale, ça n'existe pas, monsieur le Président. Avec la chute du mur de Berlin, il y a des gens qui ont écrit que c'était la fin de l'histoire. Moi, je pense au contraire que le rêve communiste, égalitaire, est profondément enraciné dans l'imaginaire de l'humanité.
Les rêves, j'en suis revenu. Je le regrette. Mais c'est comme ça.
Mais c'est comme ça, les rêves, j'en suis revenu. Régis Debray.
C'est une très belle conclusion. D'abord, c'est vrai que Mitterrand, si j'ose dire, a maintenu la ligne française. C'est en quelque sorte le dernier de nos présidents de la République, avant la dégringolade symbolique que nous avons vue par la suite. Moi, les rêves, j'en suis pas revenu, mais je sais que c'était des rêves. Mais j'ai toujours envie de rêver, disons. Simplement, il faut pas rêver dans le vide, c'est-à-dire il faut tenir compte tout de même de l'endroit et du moment où on se trouve, n'est-ce pas ? Donc,
on parlait des cycles d'espérance révolutionnaire,
oui.
Des cycles d'espérance chrétienne. Les cycles d'espérance deviennent de plus en plus courts. Le cycle d'espérance européenne, parce que au fond, François Mitterrand, au moment du tournant de la rigueur en 83, avec le traité de Maastricht après, il a tenté une dérivation de l'espérance socialiste vers la construction européenne.
Oui, ça a été le grand mythe de substitution, si vous voulez. On abandonne le projet socialiste, donc on donne une autre espérance pour, je dirais, meubler le vide ou canaliser les énergies militantes orphelines. Donc, Europe, Europe, Horizon 90, bon, maintenant c'est fini, la page se tourne. Mais c'est vrai que l'homme est un être en attente, hein. C'est un être du lendemain. La vie ne lui suffit pas, le réel ne lui suffit pas. Il lui faut quelque chose d'autre, donc il lui faut un jadis et il lui faut un demain. Et c'est ainsi. Et aujourd'hui, évidemment...
Aujourd'hui, vous dites bonjour à quoi ? On sait à quoi vous dites adieu, mais vous dites bonjour à quoi ?
Écoutez, je dis bonjour à cette extraordinaire métamorphose qui est en train de se développer sous nos yeux, où on passe d'une civilisation à une autre, disons, de l'écrit à l'image, de l'État à la société civile, et ça, c'est pas toujours pour le bien. Je dirais, est-ce qu'on peut inventer une autre Amérique, l'Amérique que nous imitons bêtement, en tout cas dans ses mauvais côtés ? Donc je crois qu'il y a vraiment là un enjeu, il y a, si vous voulez, à la fois une rupture technologique et des retrouvailles symboliques, d'où la remontée du religieux, et j'espère la remontée de cette religion civile qu'on appelait la République, ou la nation, hein, au sens républicain du mot. Donc je suis devant cette sorte de rupture dont je voudrais pas que ce soit simplement une chute. Je rêve peut-être d'une ascension.
Et vous êtes un homme partagé, comme chacun d'entre nous. Si je peux faire la comparaison avec Jacques Julliard, Marianne, Le Figaro. Jacques Julliard dit « J'ai un conseil d'administration intérieur ». Ça, je sais pas si c'est une expression que vous auriez reprise.
Non, pas du tout.
Et Julliard, il dit « J'ai 50% de social-démocrate, j'ai 25% de réac et j'ai 25% de libertaire ». Et vous, ça se compose comment, le conseil d'administration, si j'ose de nouveau l'expression ?
Je dirais 50% de jacobins, 25% de chrétiens et 25% d'auteurs comiques.
Parce que l'épreuve approche, c'est ça qui rend l'époque drôle.
Non, parce que l'humour est la politesse du désespoir et qu'au fond j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire rire et qu'au fond j'aimerais me lancer maintenant dans ce... dans la comédie musicale qui est ma vraie vocation. Mais la comédie musicale pour parler de choses tragiques, entendons-nous. Hein.
Mais vous avez un talent d'écriture qui s'adaptera à ça. Je recommande, hein, dans Quarto, beaucoup des livres ou des extraits de livres que vous reprenez sous le titre « Carnet de route ». Parce que, en fin de compte, la plume, c'est plus que l'épée, l'axe du monde.
Bien sûr, la plume finit toujours par vaincre l'épée, c'est ça qui reste. Et on est inquiet pour beaucoup de nos dirigeants qui, dont on se demande ce qui va rester puisqu'ils n'ont pas de plume.
Mais
ils
plume
n'ont
épée,
même pas de voix.
Plume épée, vous ne trouvez pas que ça fait vieux style ?
Écoutez, moi le vieux style en soi n'est pas une injure. Alors vous allez me dire, ah, vous êtes monsieur, c'était mieux avant. Mais quand on pense que c'était mieux avant, on veut faire aussi bien après, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je dis que la nostalgie, c'est notre grand coup de pied dans le cul. Il faut être aussi bon que les anciens. C'est un défi.
Retour au fondement avec Régis Debray. Merci à vous. Jacques Sigal à la réalisation. Franck Olivard qui, grâce à la préparation de cette émission, vous a relu. Et à la technique, Dimitri Gronov. Quel est le programme, Mathieu Vidard ?
Oui, Jean, les clés de l'intelligence collective, ou quand l'union des cerveaux fait la force du groupe.
Bon, ça va peut-être ne pas déplaire à Régis Debray qui écoute beaucoup France Inter à l'horaire qui est le vôtre, Mathieu Vidard.